enfants. Elle avait lu Paul et Virginie et elle avait rêvé la maisonnette de bambou, le nègre Domingo, le chien fidèle, mais surtout l'amitié douce de quelques bons petits frères qui va chercher pour vous des fruits rouges dans des grands arbres plus hauts que des clochers, ou qui court pieds nus sur le sable vous apportant un nid d'oiseau. Lorsqu'elle eut 13 ans, son père l'amena lui-même à la ville pour la mettre au couvent. Loin de s'ennuyer au couvent les premiers temps, elle se plut dans la société des bonnes sœurs, qui, pour l'amuser, la conduisait dans la chapelle où l'on pénétrait du réfectoire par un long corridor. Elle jouait fort peu durant les récréations, comprenait bien le catéchisme et c'est elle qui répondait toujours à monsieur le vicaire dans les questions difficiles. Le soir, avant la prière, on faisait dans l'étude une lecture religieuse. C'était pendant la semaine quelques résumés d'histoires saintes ou les conférences de l'abbé Frécinou et le dimanche des passages du génie du christianisme par récréation. Comme elle écouta les premières fois la lamentation sonore des mélancolies romantiques se répétant à tous les échos de la terre et de l'éternité. Il y avait au couvent une vieille fille qui venait tous les mois, pendant 8 jours, travailler à la lingerie. Elle savait par cœur des chansons galantes du siècle passé, qu'elle chantait à demi-voix tout en poussant son aiguille. Elle contait des histoires, vous apprenait des nouvelles, faisait en ville vos commissions et prêtait aux grandes en cachette quelques romans qu'elle avait toujours dans les poches de son tablier et dont la bonne demoiselle elle-même avalait de longs chapitres dans les intervalles de sa besogne. Ce n'était qu'amour, amante, dame persécutée s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux, comme ne les pas, toujours bien mis et qui pleure comme des urnes. Pendant 6 mois, à 15 ans, Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture. Avec Walter Scott, plus tard, elle s'est pris de choses historiques, rêva bahut, salle des gardes et ménestrel. Elle aurait voulu vivre dans quelques vieux manoirs, comme de ces châtelaines au long corsage qui, sous la trèfle des ogives, passaient leurs jours, le coude sur la terre et le menton dans la main, à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir. Donc, Emma au couvent est un extrait du roman de Madame Bovary, écrit par Flaubert au XIXe siècle. Il met en scène Emma, un personnage important dans le roman, qui très tôt rêve de sa vie, qu'elle imagine parfaite à travers la lecture. Dans un premier temps, l'auteur utilise des énumérations pour montrer dans cet esprit, l'auteur utilise beaucoup d'énumérations, par exemple de la ligne 1 à 4, et surtout de la ligne 24 à 30, qui montre une vie parfaite que Emma imagine à travers la lecture. En effet, elle dit qu'elle l'avait lu pour les Virginie. Et ensuite, à travers les histoires que lui contait la vieille fille, et les romans qu'elle lut plus tard elle-même, elle imagine ce qu'elle pouvait vivre à travers les héros de ses romans, comme elle aurait voulu vivre dans quelques vieux manoirs, comme ces châtelains longs corsages, à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plume blanche. Pour mettre en évidence le rêve d'Emma à travers la lecture, l'auteur il utilise beaucoup des éléments du roman, des personnages qu'on retrouve et les héros qui ont souvent une vie parfaite. Comme ce n'était qu'amour. Encore on peut dire le cavalier à plume blanche qui galope sur un cheval noir. Il utilise aussi des comparaisons, comme à la ligne 3, des fruits rouges dans des grands arbres plus hauts que des clochers. Donc là, ça montre aussi une vie parfaite, enfin, où il y a des fruits rouges dans les grands arbres. Ça montre une vie
terminé. Donc là on est à 8 minutes mais avec des blancs un peu partout. T'as commencé par la lecture, t'as regardé là, j'attendais avant qu'on fasse l'introduction, d'accord? Avant la lecture. Mm-hmm. Introduire, rappeler l'objet d'étude, c'était quoi l'objet d'étude?
Le roman irlandais.
Comment?
Le roman.
Le roman, oui, pas la nouvelle. La nouvelle, c'était au programme de seconde. Donc le roman, ta lecture, un peu lente vu la longueur du texte. Si on te laisse tout lire, bon, j'aurais pu t'interrompre à la 15e ligne, ou alors te demander de commenter que la deuxième partie. On pourrait très bien s'arrêter sur la deuxième partie. À la limite, peut-être j'y réfléchirai. Si on ne peut pas se contenter de la deuxième partie pour cet extrait-là. Donc je revois. J'ai simplement relevé larmes et baisers. Il fallait faire la liaison. Sanglots, t'as dit larmes et baisers.
Ok.
En plus, bon voilà, il faut mieux dire larmes et baisers. Et puis il y avait un autre gros truc, c'est le vicaire.
Je sais pas où j'ai mis viscère.
Attention, viscère, c'est une partie des intestins. Mm-hmm. Ça fait pas terrible. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un vicaire? C'est elle qui répondait toujours à monsieur le vicaire.
Mais c'est celui-là qui a lui enseigné le catéchisme, hein.
Donc c'est quelqu'un c'est un grade inférieur au curé. Hein. C'est un curé, mais de grade inférieur. Voilà. Bien, on demandait donc de rappeler l'objet d'étude, tu l'as dit à peu près. Si tu es l'auteur, ça a été très léger ce que tu as dit. Rappeler le titre, tu l'as fait. Le genre, tu viens de le dire plus ou moins en parlant du roman. Rappelez la question, j'ai pas entendu que tu rappelles la question à aucun moment. Non ? Définir deux étapes. Tu as défini deux étapes ? J'en ai pas entendu parler. Hein ? Conclure, j'ai pas entendu, j'ai pas vu de conclusion. Tu me dis Emma, un personnage important, ben, on dit héroïne éponyme, c'est-à-dire héroïne qui donne son nom au roman. Tes énumérations, ben, faut les lire. Il ne faut pas dire il y a des énumérations de telle ligne à telle ligne, il faut y aller. Hein, il faut dire des fruits rouges, dans des grands arbres plus hauts que des clochers, ben, il n'y a pas grand-chose là. Pas grand chose comme énumération. Si, la maisonnette de... Voilà, c'était au début, dans les premières lignes. La maisonnette de bambou, le nègre de Domingo, le chien fidèle. Mm-hmm. Hein? Mais surtout, quatrième élément, l'amitié douce de quelques bons petits frères qui va chercher, etc. Avec une espèce d'amplification d'une période oratoire, en quelque sorte. Il y a on amplifie la période. Puisque c'est de plus en plus long. Ça commence déjà assez long, puisque c'est la maisonnette de bambou, c'est pas un mot tout seul, le nègre Domingo, il y est déjà, le chien fidèle, mais surtout, etc. Puis là, on s'en va. À propos des fruits rouges dans les grands arbres plus hauts que des clochers, il faut relever l'hyperbole et tout de suite un soupçon d'ironie. Dans ce texte-là. Hein, tout l'ensemble de l'extrait est marqué par l'ironie. J'aurais pu poser une question sur le développement, peut-être, ça aurait été mieux, sur le développement de l'ironie. Hein, tout ça dans l'exagération. Hein, voilà. Bon, l'espèce de fierté du personnage, 9, 10, 11, c'est elle qui répondait toujours, elle comprenait bien le catéchisme, elle répondait dans les questions difficiles, oui. La place de la religion dans l'éducation. Hein. Pour Flaubert, c'est un début de l'abêtissement. Hein. Voilà. Mais c'est un début du romanesque aussi, parce que tu as le romanesque à travers les images de l'histoire sainte, c'est-à-dire de la Bible racontée aux enfants, c'est à peu près ça. Hein, et puis plus sérieux, les conférences de l'abbé Frayssinous, Et on aboutit au romanesque très sérieux avec un ouvrage littéraire qui est Le génie du christianisme de Chateaubriand. Voilà. Et puis, cette ironie encore marquée dans la lamentation sonore des mélancolies romantiques, et puis l'hyperbole qui arrive derrière, se répétant à tous les échos de la terre et de l'éternité. Hein? Nouvelle hyperbole. Nouvelle marque très sérieuse d'ironie. Bien, l'ironie très marquée aussi, dans les vocations, ce n'était qu'amour. Mais là, il fallait dire encore une fois l'énumération, qu'amour, amant, amante, dame persécutée, s'évanouissant dans des pavillons solitaires, là aussi, il se moque, hein. Postillon qu'on tue à tous les relais, là aussi, on se moque. Hein. On est, alors, hyperbole, exagération, chevaux qu'on crève à toutes les pages. Hein, avec le tous les relais, toutes les pages, forêt sombre, trouble du cœur, serments, sanglots, dans la lecture simple, tu pouvais le faire sentir aussi, hein, en le marquant, cette ironie. Ce n'était qu'amour, amant, amante, dame persécutée s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêt sombre, trouble du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets. Messieurs, braves comme des lions, doux comme des agneaux, en marquant bien l'opposition entre loup et agneau, hein, vertueux comme on ne l'est pas, et là il ne va pas jusqu'au bout, hein, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes. Pendant 6 mois à 15 ans, il a relevé le « se graissa les mains hein, », comme si c'était de l'huile. Hein, « se graissa les mains » et cette poussière des vieux cabinets de lecture, une espèce de dégoût hein, de la crasse qu'il peut y avoir dans les cabinets de lecture. Une idée presque de vieillesse, quelque part. Walter Scott, qui sait ?
Un auteur.
Voilà, anglais, écossais, qui est un des modèles du romantisme anglais, qui situe l'action de certaines de ses œuvres au Moyen-Âge, en particulier Ivan Noé. Et donc un rapport à l'histoire du Moyen-Âge, les choses historiques. Re-énumération, bahut, salle des gardes, ménestrel. Qu'est-ce que c'est qu'un ménestrel ? Troubadour, ménestrel. Ménestrel, moi je dirais que c'est quelqu'un qui joue de la musique, hein, dans les châteaux. Mais il peut aussi, tu vérifieras, il peut aussi peut-être bien dire des poèmes, voilà. Hein. Mais il joue de la musique, et d'ailleurs tu vas trouver dans Madame Bovary, tu as, au moment du mariage d'Emma, le ménétrier qui passe devant. C'est celui qui joue du violon, on l'a vu d'ailleurs dans le film. Hein. Et la très grande ironie, alors j'avais une question sur le trèfle des ogives, qu'est-ce que c'est que ce trèfle ? Eh bien, dans les ogives, c'est la partie comme ça des cathédrales. Alors ogival, bien entendu, ça te dit ça. C'est quoi cette mode ? Comment on appelle cette, le gothique ? Hein ? Donc tu vois, les ogives, c'est gothique, c'est des arcs brisés. Et dans le décor d'en haut, tu regarderas à l'église ou ailleurs, tu as des trèfles, carrément des trèfles, enfin des sculptures en forme de trèfles. C'est de ça qu'il parle.
Donc ça vient de la religion, alors, finalement, dans les églises.
Oui, Oui. Alors, le trèfle des ogives, mais il y a peut-être... Alors là, je ne sais pas. Parce que tu as châtelaine, il y a peut-être le même type de sculpture dans des trucs en forme d'ogive, dans les châteaux. Oui. Hein, les châteaux peuvent être aussi gothiques. D'accord ? Donc, tu peux avoir le même type de motif. Donc, ce n'est pas forcément l'église. Non, ça peut être le château. C'est probablement le château, ici. Hein, sous le trèfle des ogives. Alors, il y a une ironie sur l'heure... sur l'histoire du vieux manoir, sur le costume, les châtelaines au long corsage, hein, et il y a peut-être, alors de la part de Flaubert, mais ça tu ne peux pas le dire dans le commentaire, un jeu de mots sur le corsage. Bon. Mais ça, c'est, ça nous, voilà, c'est tout. Mais connaissant Flaubert, il est capable de ça. Sous le trèfle des ogives, passaient leur jour, passent leur temps, le coude sur le... Donc elles prennent la pose. Hein. Il y a l'idée qu'elles prennent la pose, le coude sur la pierre, le menton dans la main, à regarder venir du fond de la campagne, un cavalier à plume blanche qui, bon, c'est l'arrivée du prince charmant d'une certaine façon. Hein. Il y a une très grande ironie là-dedans, qui évoque quand même d'une certaine façon le galop permanent en quelque sorte, hein, puisque voilà. On te dirait à attendre, mais elle le regarde venir, il arrive sans arrêt, tu vois. Ça veut dire que dans la tête de la lectrice, il y a répétition de la même scène. Elle se fait un film, comme on peut dire, en quelque sorte. Voilà, et ben, on va s'arrêter là, parce que sinon la demoiselle Saint-Nest, elle va s'impatienter. Et il y a au revoir, hein. D'accord. Bien.